On va continuer dans notre étude de la parole de Dieu. Si vous voulez vous tourner avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est si vous ouvrez à peu près au milieu, vous tomberez sur les psaumes et vous tournez à droite après les proverbes, ce sera l'Ecclésiaste. Nous arrivons aujourd'hui au chapitre 8. Un livre très riche par les questions qu'il pose et qui semble ne pas donner tout de suite une réponse, mais encore une fois, il faut le lire en entier pour trouver la réponse divine. On a déjà rappelé de quoi il s'agit, c'est un enseignant, un maître, un prédicateur qui s'adresse à une assemblée, et on pense que, comme il est dit au tout début, qu'il était le fils du roi David, et on connaît bien la sagesse qu'avait reçue le roi Salomon, on pense que c'est le roi Salomon lui-même qui est l'auteur de ce livre. Et il pose des questions que l'on se pose tous lorsqu'on prend le temps de réfléchir un peu. Quelle est la raison de la vie? Pourquoi est-ce qu'on est ici bas? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que la mort est inévitable? Et oui, il se pose ces questions d'une façon très, très naturelle, et il semble réagir avec les mêmes questions aux questions que l'on se pose nous-mêmes. Lorsque on réfléchit à la vie, a-t-elle un sens, a-t-elle une valeur? À quoi bon lutter tous les jours? À quoi bon essayer d'avoir un peu de bonheur, sachant que la mort est inévitable, la vie est imprévisible, la vie n'est pas juste? À quoi bon tout ça? Et dans ces questionnements, il se place d'un point de vue qui exclut d'abord Dieu, le point de vue sous le soleil. Il part de la vie sous le soleil, c'est-à-dire de la vie où il n'y a pas de référence faite par l'individu à l'existence d'un Dieu qui est tout-puissant, d'un Dieu qui nous aime. Et cette vie sous le soleil, c'est souvent la vie de nos contemporains. C'est même parfois la vie de nos amis chrétiens qui pensent être chrétiens mais qui vivent sans égard pour Dieu, qui vivent sans chercher sa direction. Et il en vient à parler des problèmes insolubles de l'existence dans ce chapitre 8. Il va falloir attendre la fin du livre, encore une fois, les chapitres 11 et 12, pour qu'on voit sa vraie perspective. Et je vous invite à tenir le coup jusque-là, on va pas tarder à y arriver. Et c'est vrai que si on lit ce livre au premier degré, on peut se trouver très déprimé. On peut se dire à quoi bon. Et c'est souvent, je crois, une des raisons pour laquelle la plupart des pasteurs ou des enseignants bibliques ne passent pas trop de temps dans ce livre, parce qu'ils savent qu'il peut décourager les gens qui lisent, qui réfléchissent à ces choses. On va lire ensemble le début du chapitre 8, si vous voulez lire avec moi. C'est page 660 dans la Bible à la colombe. Si vous avez besoin d'une Bible, Vous pouvez lever la main et on se chargera de vous en prêter une. Si vous avez besoin d'une Bible, on peut même vous en donner une, donc n'hésitez pas à demander. Je lis donc dans la version à la colombe. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. Je dis, observe l'ordre du roi et cela à cause du serment de Dieu. Ne te presse pas de t'éloigner de sa présence et ne persiste pas dans une mauvaise cause car il a fait tout ce qui lui plaît, car il fait tout ce qui lui plaît. Quelle qu'elle soit, la parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira, que fais-tu ? Celui qui observe le commandement ne connaîtra pas de mauvaise cause, et le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. En effet, il ne sait point ce qui arrivera. Qui donc lui annoncera comment cela arrivera ? L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, et il n'y a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat, et la méchanceté ne donne pas à ceux qui l'exercent aucune échappatoire. Prions. Seigneur, on te remet ces moments où nous essayons de comprendre ce que tu veux nous dire personnellement et collectivement. Merci pour ta parole qui nous est parvenue, que tu as inspiré par ton Esprit Saint et ton Esprit Saint qui est là pour nous la restituer dans nos cœurs, dans nos vies, qu'elle puisse changer nos perspectives de façon juste, qu'elle puisse nous encourager à persévérer dans la foi, Seigneur. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Qui connaît l'explication des choses ? Qui comprend ce qui se passe ? On vit dans une société où il y a plein de spécialistes, il y a plein de maîtres de conférences de ci et de là qui se réunissent souvent dans des débats à la télévision et qui viennent expliquer la raison pour laquelle les choses vont si mal. La seule chose qui me frappe, c'est que pourquoi ces gens qui ont toutes les réponses ne sont pas là au pouvoir ? Mais généralement, ils savent que ce n'est pas facile de changer les choses en étant des gouvernants, et c'est plus facile de critiquer, de donner son interprétation des choses. Mais cette question, c'est un peu une question rhétorique que pose Salomon, l'Ecclésiaste, et il nous dit, en fait, on ne peut pas connaître toutes les choses, on ne peut pas tout comprendre. Et il va parler dans ce chapitre 8 de sagesse et des questions insolubles, des mystères de l'existence. Il dit qu'en fait, il a beaucoup parlé de la vie sous le soleil. Maintenant, il commence à parler de la sagesse, qui est la connaissance des choses que l'on applique à notre situation dans la vie. Il dit « La sagesse de l'homme, elle éclaire son visage » et la sévérité de sa face est changée. Il fait l'éloge de la sagesse qui nous amène à nous décrisper. La sagesse, c'est des fois reconnaître qu'on ne sait pas. La sagesse, c'est des fois reconnaître qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais c'est vrai que lorsqu'on se décrispe, on n'est plus à même d'avoir un visage éclairé, d'avoir un visage en paix. La sévérité qu'on peut avoir lorsqu'on défend un point de vue, c'est souvent le cas quand surtout les débats politiques, on voit les gens qui s'invectivent, qui sont hargneux, et on n'a pas tellement envie de les écouter. Par contre, lorsque la sagesse de l'homme est visible dans sa contenance, dans sa façon de se comporter, lorsque la personne arrive avec humilité, reconnaissant qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'elle pense certaines choses, elle a des convictions, mais elle respecte les autres, aussitôt on peut communiquer. Il n'y a plus de sévérité, il y a un visage éclairé. Ça nous fait penser dans le livre des Nombres, la prière que Dieu avait confié à Moïse en disant « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. » L'Éternel fait briller sa face, c'est le même concept. La sagesse de l'homme, elle fait briller son visage. Alors, c'est pas qu'on est... Si on est sage, on brille dans le noir. Mais il y a cette radiance de la présence de Dieu dans notre vie, de la présence de sa sagesse qui fait que les hommes qui sont autour de nous viennent à nous pour nous demander des conseils ou pour nous mettre leur cœur à nu. La question maintenant, c'est, il va parler du roi. Observe l'ordre du roi, et cela à cause du serment de Dieu. Le roi, c'est intéressant parce qu'on sait que c'était l'Ecclésiaste, était lui-même roi, c'était le roi Salomon. Mais le roi, c'est aussi toute personne en position d'autorité, que ce soit une autorité sur terre, un responsable, un responsable militaire, un responsable civil, un chef d'entreprise, votre employeur. Mais cette idée qu'on doit se placer sous l'autorité de quelqu'un, qu'on est sous l'autorité de quelqu'un, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et l'homme étant rebelle par nature, plein d'orgueil, dans sa nature de pécheur, il a du mal à le faire. Mais là, il dit, observe l'ordre du roi, et cela à cause du serment de Dieu. On pense qu'en fait, c'est une allusion aux promesses faites à David par Dieu, qu'il mettrait quelqu'un sur son trône qui régnerait pour toujours. Et donc, il y a cette autorité du roi qui vient de Dieu et que l'on doit respecter. Et la Bible reconnaît que les autorités qui sont dans nos vies, que ce soit les autorités gouvernementales, l'autorité de nos parents, l'autorité des institutions, des politiques, des gouvernements, c'est quelque chose que Dieu a institué pour notre bien. On a tendance à critiquer, à se moquer, à résister, à rejeter toute autre espèce d'autorité. Le grand slogan de mai 68, c'était de dire non à toute autorité et de vivre comme on l'entendait. Mais il continue en disant « Ne te presse pas de t'éloigner de sa présence devant l'autorité de quelqu'un. » On pourrait prendre l'idée que je vais partir aussi loin que je peux de François Hollande, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Je sais que c'est pas le cas. Mais l'idée de s'éloigner du roi, c'est pas la solution. Parce que cette autorité, elle subsiste, elle est indépendante, elle est à respecter. Ne persiste pas dans une mauvaise cause, ça serait l'idée de se rebeller contre l'autorité, car il fait tout ce qui lui plaît. Le roi, que ce soit... les autorités au-dessus de nous, dans notre vie, ou même l'autorité de Dieu, on ne peut pas, on peut la critiquer, mais il va nous dire comment le faire, mais on ne peut pas la nier. Le roi fait tout ce qui lui plaît. C'est le propre d'un roi de décider ce qu'il veut. Alors notre gouvernement, nos types de gouvernement, les démocraties ont essayé de donner la parole au peuple, et l'autorité c'est le peuple, Ça, c'est la théorie. En pratique, on sait bien que la personne qui est à l'Élysée a énormément de pouvoir pour influencer les choses d'un côté ou d'un autre, par les gens qui sont nommés dans les postes de responsabilité gouvernementale. Tout ça, ça laisse une grande liberté à celui qu'on élit avec notre système démocratique. Quelle que soit la parole du roi, quelle qu'elle soit plutôt, la parole du roi fait autorité. Qui donc lui dira « Que fais-tu ?» Et un conseil, celui qui observe le commandement ne connaîtra pas de mauvaise cause et le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Et là, il suggère, verset 6, qu'il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Il parle donc du fait que nous devons respecter l'autorité et que ça fait partie de la sagesse. Observe l'ordre du roi, ne te presse pas de partir, de désobéir. Ça pose bien sûr la grande question de la situation du chrétien vis-à-vis du gouvernement, de la soumission aux autorités. Il y a un passage, je vous invite à vous y tourner, Romains 13, versets 1 à 7, qu'on va lire ensemble. C'est page 182. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre d'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Allô ? C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Waouh ! Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise, rendez à chacun ce qui lui est dit, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors quand on lit ce passage de soumission aux autorités, que c'est Dieu qui les a instituées, on ne peut pas bien sûr s'empêcher de mettre en question les gouvernements mauvais, les dictateurs, les tyrans, les gouvernements aujourd'hui qui persécutent les chrétiens, qui persécutent les personnes qui vivent sous leur autorité. Est-ce qu'on doit suivre cette injonction biblique de la parole de Dieu rapportée par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit? Est-ce qu'on a le droit de se rebeller contre des mauvaises autorités? La réponse est claire dans le Nouveau Testament, c'est que si un gouvernement vous demande de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu désire, à ce moment-là, vous avez tout à fait le droit et même le devoir devant Dieu de ne pas suivre des commandements iniques, des commandements qui sont directement opposés à la volonté de Dieu. Alors c'est pas toujours évident. Pensez à l'avortement. Le droit à l'avortement a été voté, institué en France. Ça va contre beaucoup de Ça va contre le principe biblique de la vie qui est sacrée. Ça va aussi pour le mariage entre gens du même sexe, alors que le mariage est évidemment l'union de deux personnes de sexe opposé. On aurait pu très bien donner cette faculté sans utiliser le mot de mariage qui est chargé de connotations judéo-chrétiennes et de bon sens, parce qu'il faut toujours un homme et une femme, comme l'a rappelé Wayne il y a 2 semaines, pour avoir des enfants. Ils ont beau faire, ils ont beau recourir à des tas de choses, ces gens qui veulent promouvoir, autoriser, encourager le mariage entre gens du même sexe n'ont pas de raisonnement valide pour le justifier. Après, qu'on fasse ce qu'on veut, c'est une chose, mais pas l'imposer et reprocher aux gens qui veulent ne pas célébrer ce genre de mariage, ne pas libérer cette clause, une clause de conscience qui permettrait aux responsables, que ce soit des maires ou des responsables d'église, de refuser. Ça, la Bible nous dirait, c'est contraire à la parole de Dieu et on est autorisé par Dieu à s'y opposer. Alors ça ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'on le fait en faisant du mal, en tuant les médecins qui pratiquent l'avortement, mais on est encouragé à le faire. On voit ça dans Actes 4, pas nécessairement sur ces domaines, mais c'était le domaine de la persécution des apôtres au premier temps de l'Église, que les autorités voulaient museler, ils voulaient les interdire de parler de Dieu. On va lire Actes 4, verset 15. C'est les responsables juifs. Ils dirent, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Interdisons-leur de parler de Jésus-Christ. Alors ils les appelèrent, ils font venir les apôtres et leur défendurent absolument, pas juste un peu, mais absolument, de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et la réponse de révolte, mais c'est fait dans la douceur, c'est fait dans la conviction, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu? On ne parle plus de votre petit Sanhédrin ou de votre petit tribunal ici, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces, c'est pas bien. Et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple, tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Pierre et Jean leur disent, on ne peut pas ne pas obéir à Dieu dans ce domaine. Désolé, on est prêt à aller en prison, on est prêt à subir les conséquences, mais ça n'est pas possible. Et on a un autre passage un peu plus loin qui nous dit exactement la même chose. Lorsque ils sont repris, ils comparaissent de nouveau devant le Sanhédrin, l'organe de politique des Juifs sous la domination romaine en matière religieuse. Ils leur disent, le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre, les interroge en ces termes, « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Donc la Bible est claire qu'elle laisse la possibilité de se rebeller contre les autorités lorsque les autorités veulent vous faire faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, à sa volonté clairement exprimée par la Bible et par ses enseignements bibliques. Donc, on sait que la Bible est pleine d'exemples de personnes qui se sont rebellées contre l'autorité des gouvernements qui s'opposaient à Dieu. Vous vous souvenez des sages-femmes à qui le pharaon avait ordonné de massacrer, de tuer, de ne pas laisser vivre tous les enfants qui allaient naître. Moïse avait été épargné par ces sages-femmes en désobéissance à l'ordre politique du roi. Les trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, que le roi Nabuchodonosor avait ordonné de prier, de le vénérer, avaient refusé, ils avaient subi les conséquences. On pourrait penser à Daniel, on peut penser aux enfants qui devaient être mis à mort dans le Nouveau Testament pour que le Messie ne puisse pas arriver sur son trône à Jérusalem et qu'il ne puisse pas vivre et remporter la victoire pour nous sur la croix. Il y a des tas de conditions, de passages qui nous disent qu'en fait on doit même respecter Dieu plutôt que le gouvernement si le gouvernement ne respecte pas Dieu. Mais à la base, c'est Dieu qui a institué le gouvernement, qui lui a même donné l'épée, parle de peine de mort, pour protéger la société. C'est Dieu qui a institué le mariage, qui a institué le gouvernement, qui a institué l'Église. Il a créé un environnement propre au développement, à l'épanouissement des hommes. Et donc, lorsque l'on s'oppose, le cœur sage connaîtra le temps opportun et le jugement. Dieu va vous donner la sagesse pour questionner l'autorité du gouvernement. Ça nous fait penser à Néhémie qui, devant les nouvelles de la destruction de Jérusalem, lui qui était l'échanson du roi tout-puissant, il avait prié, il avait demandé la faveur de Dieu pour pouvoir présenter sa cause qui était de revenir à Jérusalem, reconstruire la muraille et remettre des portes qui avaient été brûlées. Et on voit comment Dieu donne la faveur de ceux qui cherchent avant tout à lui plaire. Il ne s'agit pas de se rebeller par égoïsme, par désir de pouvoir personnel, mais de se rebeller pour obéir à Dieu. Et il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Il parle donc de cette sagesse devant qui nous permet de vivre sagement devant le roi. Il nous rappelle, verset 7, on ne sait point ce qui arrivera. Ça, c'est la condition humaine. On n'est pas, malgré certains qui se disent voyants, qui vous demandent de l'argent pour vous prédire l'avenir, on ne sait pas ce dont demain est fait, on ne sait pas ce qui nous attend. La seule chose qu'on puisse connaître, c'est connaître le Seigneur qui lui connaît le futur. Jacques nous rappelait, lorsque nous faisons des projets, nous oublions que nous sommes une vapeur, qu'on ne sait même pas si on sera là demain, à plus forte raison dans un an. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir, il n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Il n'y a point de rémission dans ce combat, et la méchanceté ne donne pas à ceux qui l'exercent aucune échappatoire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils disent que on peut essayer d'exercer son autorité, se rebeller contre les autorités existantes, on peut taper du poing, on peut manifester, on peut faire la révolution, mais on n'est pas maître de son propre souffle. Le souffle de la vie l'inspiration, l'expiration que l'on fait inconsciemment, que Dieu nous a donné le souffle de la vie, et il peut le reprendre d'un moment à l'autre, de façon complètement inattendue. On n'a aucune autorité sur le jour de la mort. Je pensais en lisant ça, en fait, peut-être je peux avoir une autorité sur le jour de la mort si je décide de me suicider telle date. Mais là encore, faudrait-il que j'arrive à cette date ? Encore faudrait-il que Dieu me donne ou me permette de faire une chose qui est contre sa volonté ? On ne sait toujours pas, même si on essaie de décider, on sait, la seule chose que l'on sache, c'est que on est né à une date précise, que la plupart d'entre nous connaissent, parce qu'il y a un système d'enregistrement de l'état civil. Mais on ne sait pas le jour, on ne connaît pas le jour de notre mort. C'est pas très gai tout ça. Et même si on fait partie de ces tyrans qui menacent, qui font du mal autour d'eux, même avec cette méchanceté, on est toujours à l'abri, on n'est jamais à l'abri plutôt d'une mort subite, d'un accident, d'une maladie qui va prendre du temps. On est vraiment rien du tout. Je crois que l'avantage de l'Ecclésiaste, c'est de replacer les choses un peu dans leur contexte. Il y a un Dieu, et ce n'est pas moi. Il y a un Dieu qui existe et ce n'est pas moi. Je ne peux pas prétendre diriger les choses, diriger ma vie. Je dois faire comme on l'a fait, remettre mon sort à l'Éternel. Je dois prier pour que le Seigneur me dirige, qu'il prenne soin et qu'il me bénisse. Dieu est un Dieu qui bénit, on l'a rappelé en lisant le nombre 6, la bénédiction d'Aaron. L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. J'ai vu, verset 9, on va lire le reste du chapitre, j'ai vu tout cela en prenant à cœur tout l'ouvrage qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme se rend maître de l'homme pour son malheur. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et s'en aller. On venait du lieu saint en oubliant dans la ville comment ils avaient agi. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et y prolonge ses jours, moi je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte en sa présence. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'y a point de crainte en présence de Dieu. Il est une vanité qui se fait sur la terre, c'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants, et des méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de voir le souci que l'on se fait sur la terre, car les yeux de l'homme ne voient le sommeil ni de jour ni de nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. Eh bien, l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Ce que l'homme cherche avec peine, il ne le trouvera pas. Et si même le sage prétend connaître, il ne peut pas trouver. Il parle des grandes questions, des mystères de l'existence, des questions qui nous interpellent tous. Et même la sagesse n'a pas de réponse à ces grandes questions. Verset 10, il fait allusion sans doute, encore une fois, il se place sous la logique, sous le soleil. Et il dit qu'il a vu des méchants recevoir la sépulture et s'en aller. On oubliait en venant du Saint-Lieu, comment ils avaient agi, c'est là encore une futilité, un vide, une vanité. De quoi parle-t-il? Il parle des méchants, des hommes mauvais, qui reçoivent des funérailles où on les respecte. On fait même souvent le logis, c'est-à-dire qu'on dit du bien d'eux. Et des fois, quand vous entendez les bonnes choses que l'on dit sur certaines personnes, que vous savez avoir été des crapules, vous êtes stupéfait, vous êtes... Et ça peut être pour des gens de votre entourage, des gens de votre ville, ou bien des hommes politiques, ou des grands tyrans de l'histoire. Et on oublie comment ils ont agi. Et ça choque Salomon. Il connaissait plein de rois, il connaissait sans doute plein de tyrans. Dans notre époque moderne, nous avons connu des grands tyrans comme Hitler, comme Staline, qui ont tué des personnes par millions. Et pourtant, après leur mort, on leur accordait une vénération. Staline était le petit peur du peuple en Russie. Il y avait son cercueil qu'on pouvait voir sous un cadre de verre. On pouvait aller lui rendre hommage. Les Russes à l'époque, les Soviétiques faisaient la queue dans la neige pour aller rendre leurs hommages à un tyran sanguinaire. Et aujourd'hui, de la même façon, il y a des tyrans sanguinaires, il y a des chefs d'État qui encouragent, qui facilitent le terrorisme quand ce n'est pas eux-mêmes qui sont les terroristes. On pense aux persécutions de par le monde et ces hommes vont disparaître un jour. Dans leur entourage, on dira du bien d'eux. Et puis notre histoire les oubliera peu à peu. Élodie, qui était au Cambodge, nous a parlé de son étonnement à voir un musée sur les crimes de Pol Pot, le tyran sanguinaire de l'époque. Il est connu maintenant pour ceux qui le connaissent, et elle était surprise qu'on n'enseigne pas cela dans nos programmes d'histoire. On parle des Assyriens, c'est une bonne chose, mais il y a des choses très présentes, et je suis d'accord avec elle, qu'on ignore. Et si on vous dit Pol Pot, c'était votre pote, ouais, c'était un roi du Cambodge, alors qu'en fait c'était... Et ça, c'est une question. Comment ça se fait que des gens peuvent s'en tirer aussi bien? Non seulement, c'est ce qu'il nous dit plus loin, le pécheur prolonge ses jours. Il y a des gens qui sont des tyrans, qui sont des crapules, qui sont indignes de vivre quelque part et qui pourtant vivent plus longtemps que des gens qui cherchent à plaire à Dieu, des gens qui... Et ça, c'est une question qui nous interpelle tous. On a des fois des jeunes missionnaires à 20 ans qui vont sur un champ de mission, On avait un ami qui a été tué dans un accident d'auto dans les premiers 6 mois de son ministère en Afrique. Et puis on voit je vais nommer personne, mais des personnes qui prônent l'injustice, qui prônent l'immoralité, qui vivent très vieux. Ça aussi, ça nous interpelle. C'est pas juste. Ce sentiment de justice, c'est quelque chose que vous devez utiliser lorsque vous parlez de Dieu. Si les gens autour de vous ont le sentiment d'injustice, c'est parce que quelque part Dieu a mis dans leur cœur le sentiment de la justice. Et si on vit dans un monde qui n'a aucune finalité, qui n'a pas été créé par Dieu, si nous ne sommes qu'un accident cosmique, alors à ce moment-là, pourquoi s'attendre à de la justice ? Des choses qui soient justes et des choses qui soient injustes. Réfléchissez à cet aspect des choses pour pouvoir parler avec vos amis non chrétiens ou ceux qui sont athées, qui refusent l'existence de Dieu, mais qui en même temps vont être les premiers à aller manifester pour le pour le meurtre des phoques en Alaska. Je ne me moque pas d'eux, mais il y a ce sentiment que c'est quelque chose qui n'est pas bien, que de trahir, c'est mal. Et c'est Dieu qui a mis cette justice dans nos cœurs. Il a mis le sentiment de l'éternité, Ecclésiaste 3:12, mais il a aussi mis le sentiment de la justice. Une des grandes questions aussi, où même la sagesse n'a pas de réponse, c'est le verset 11. C'est un verset très important. Parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est point exécutée promptement, le cœur des humains en dedans d'eux est rempli du désir de faire le mal. Autrement dit, on fait du mal. Notre conscience nous dit que ce qu'on fait est mal. Mais il n'y a pas de punition immédiate. Et notre vieille nature se dit, oh, peut-être que ce n'était pas si grave que ça, après tout. J'ai fait quelque chose, il me semblait que c'était mal, que j'aurais dû être puni, mais je suis encore là. Et les choses ont même plutôt l'air d'aller bien dans ma vie. Donc c'est peut-être pas si grave, et je vais continuer. Le cœur des humains au-dedans d'eux est rempli du désir de continuer, de faire le mal. Parce qu'il n'y a pas eu de rétribution immédiate. On pense par exemple au roi au pharaon avec Moïse, qui, lorsqu'il y avait la pression des plaies d'Égypte, était prêt à laisser partir son peuple, comme le lui demandait Moïse, inspiré par Dieu. Mais dès que la pression se relâchait, il revenait sur ses promesses, et il passait en quelques instants de la peur abjecte d'une rétribution violente à un orgueil insolent. Et c'est une tendance que tous les hommes ont, parce que nous sommes des pécheurs. Quelqu'un faisait remarquer qu'il y a une grande différence entre les promesses de l'homme malade et les péchés de l'homme guéri. Quand on est malade, que les choses vont mal, on vient à l'église, on promet à Dieu de le servir, de le respecter, de l'honorer. Et puis la guérison arrive et on oublie ses promesses et on retombe dans les péchés parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de rétribution, il y a eu un retard à l'application de la sentence. Brièvement, il y a un retard à appliquer la sentence parce que la sentence, elle est déjà tombée. Notre cœur nous a déjà condamnés. Jean 3, 18 disait « Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Nous sommes jugés, la sentence est tombée, mais l'application de la peine va prendre du temps. Dieu déteste et est opposé à toute mauvaise action. Mais son silence, ce n'est pas de l'indifférence. Il y a des péchés qui entraînent une punition immédiate, mais souvent la punition ultime n'est pas là. Si je prends de l'alcool et que j'ai un accident de voiture, je peux causer la mort de personne. Je vais avoir des problèmes avec la justice, je vais avoir une sentence immédiate, mais le mal que j'ai fait devant Dieu, ça va prendre du temps. David disait dans le psaume 36, verset 7, « Tes jugements sont comme le grand abîme. Tes jugements sont profonds. Les jugements de Dieu sont justes et profonds. » Mais un auteur disait qu'en fait, l'absence de sentence appliquée ça semble ouvrir un abîme, une abysse encore plus profond où on commence à mettre en doute la justice de Dieu. Quand on ne la voit pas appliquée dans la vie des autres ou quand même dans notre propre vie, on voit qu'on s'en tire à bon compte et que Dieu continue à nous bénir. Ce retard pose question. Mais les raisons de ce retard, ce n'est pas parce que Dieu d'un seul coup a décidé de tourner la tête. C'est un mystère, mais c'est un mystère d'amour. C'est le silence d'un Dieu qui ne prend pas plaisir à punir les hommes. Est-ce que vous saviez que c'est dit dans la Bible ? Lamentations 3:33. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à causer du malheur aux hommes ou à les juger, à les affliger. Il est lent à la colère parce qu'il est merveilleux dans son amour. En fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est cette vie ici-bas, c'est qu'un prélude, c'est qu'une période probatoire. Et un autre aspect, c'est que si la sentence tombait tout de suite, ce serait formidable dans un sens. On pourrait fermer les prisons, on pourrait licencier les policiers. Ça rime, licencier les policiers. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait une obéissance à Dieu basée sur la crainte du jugement immédiat. Ça serait une obéissance basée sur la peur. Mais Dieu veut nous gagner à lui par son amour. C'est la bonté de Dieu qui nous mène à la repentance. Romains 2, 4. Il ne veut pas d'une obéissance obligatoire. Les hommes n'arrivent pas à imposer cela. Quand ils veulent que les gens ralentissent à un endroit donné, ils mettent des radars qui vous envoient une prune pour 90 euros ou plus. C'est une obéissance, on va ralentir. C'est curieux, si vous revenez de Toulon sur l'autoroute, avant d'arriver à Cannes, d'un seul coup on voit toutes ces puissantes voitures qui d'habitude vous dépassent en faisant des appels de phare, d'un seul coup elles roulent à 90 ou elles ne dépassent pas le 100. Pourquoi ? Parce qu'elles savent qu'il y a une rétribution immédiate dès que la vitesse est dépassée, mais ces mêmes personnes, lorsqu'il n'y aura pas ces radars, elles vont se comporter de façon dangereuse, elles ne vont pas être motivées de l'intérieur. La patience de Dieu, ce n'est pas du laxisme. La patience de Dieu, ce n'est pas « je laisse passer, je suis ». Il veut utiliser tous les moyens pour faire que nous donner le temps de venir à lui volontairement. 1 Timothée 2, 3-4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh, il pourrait faire qu'on se tienne tous à carreau, ce serait très facile. Il pourrait avoir une comptabilité, tu as fait ça, toc, tu vas être malade pendant une semaine. Tu as fait ça, oula, là c'est un cancer avec des complications. Dieu pourrait faire ça, mais ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas son cœur. Dieu est un Dieu d'amour. Le danger, c'est qu'on abuse de ce retard. On se dit, mais rien n'est arrivé encore. Donc, on méprise les richesses de sa bonté, comme dit Romains 2, 4 aussi, son support, sa patience. 70 fois, 7 fois, Dieu persiste à pardonner, et bien souvent, 70 fois 7, l'homme continue à abuser de l'amour et de la patience de Dieu. La chose qu'il faut réaliser, qu'il y a une fin de ce retard, que la sentence va être exécutée et qu'il va arriver un moment où on aura atteint la limite. Pendant le temps où cette limite est en train d'être atteinte, souvent on augmente le nombre de péchés. On continue à se dire, bon, mais Dieu n'a rien fait. Dans Romains 2, 5, il nous est dit que les péchés continue d'amasser un trésor de colère contre nous. Il ne faut surtout pas croire que la patience de Dieu veut dire qu'il a fermé les yeux ou qu'il n'est pas au courant. Il est vraiment au courant et il va nous juger. C'est une question qui nous pose problème et ces explications, ces réflexions sont juste des façons de penser la chose vis-à-vis d'une vie d'éternité, d'un jugement divin. Il dit quand même que le bonheur n'est pas pour le méchant, même si le méchant a l'air de prospérer extérieurement, s'il a les gros yachts à la baie des milliardaires à Antibes, parce qu'il a fait du trafic d'armes et tout ça. Ils n'ont pas le bonheur, ils n'ont pas la paix de Dieu en leur cœur. Alors certains disent, bon, ben moi, je vois pas qu'ils n'ont pas la paix, mais c'est ce que nous dit la parole. Le bonheur n'est pas pour le méchant. Et ces jours, il va les prolonger peut-être un certain temps, mais il va arriver un moment où sa vie va se cesser et il y aura une rétribution divine. Marx disait que c'était l'opium du peuple. On disait, vous supportez tout et un jour, mais c'est la vérité. Dieu a mis en nos cœurs le sentiment de l'éternité. On sait que la vie, elle ne s'arrête pas au bout de 60 ans, 70 ans, 80, 120 ans. On continue d'exister. Notre corps se détruit, notre corps est détruit, mais notre âme, notre vraie personnalité, elle dure pour toujours et on va finir dans l'un ou l'autre des deux endroits dont la Bible nous parle, soit l'enfer qui a été créé pour Satan, un endroit de tourment réel, éternel, ou soit la félicité en présence de Dieu sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ce sont des choses réelles. Les gens se moquent de ça, mais ils n'ont rien d'autre à proposer. Ils n'ont pas d'explication aux grandes questions que se pose l'homme. Il semble une grande injustice, c'est qu'il y a des justes dont le sort est conforme à l'œuvre des méchants, les méchants dont le sort est conforme à l'œuvre des justes. On voit des gens souffrir qui mènent une vie pieuse, qui mènent une vie qui veut plaire à Dieu, et des gens qui ne cherchent pas à plaire à Dieu, qui semblent être complètement bénis. La nuit dernière, j'ai reçu un mail d'un pasteur qui est responsable du réseau de la Fédération évangélique de France, un homme jeune, très dynamique, 55 ans, qui vient de découvrir il y a quelques mois qu'il avait une tumeur cancéreuse au cerveau. C'est un homme qui est grandement utilisé par Dieu, et la question c'est, mais pourquoi, Seigneur ? Guéris-le, on prie pour sa guérison, mais... Et à côté de ça, il y a des gens qui font du trafic de migrants, de trafic de prostituées. Il y a des gens qui n'ont ni foi ni loi, qui sont en bonne santé, qui sont... Et c'est ce que dit... C'est une vanité de voir qu'il y a des gens qui devraient être punis, qui ne le sont pas, et certains qui devraient être bénis, qui ne le sont pas. Il y a un échange. C'est pas juste. C'est notre cri du cœur. Verset 15... L'Ecclésiaste dit, et ça semble être une façon de dire, bon, ben, puisqu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas savoir les réponses à ces grandes questions, ne nous cassons pas la tête, soyons heureux. Moi, pendant que ces philosophes posent ces grandes questions, moi, je vis tranquille. Je mange une bonne pissaladière, un bon petit rosé, et je fais la fête. Alors ça peut être vu comme une réponse totalement inappropriée, mais je crois que là, il dit qu'en fait, il faut savoir vivre le jour présent, prendre les bonheurs qui viennent dans nos vies comme des bonheurs qui viennent de Dieu. Toutes bonnes choses viennent du Seigneur, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni ombre ni variation de changement, c'est ni ombre de changement, ni variation ni ombre de changement, c'est Jacques 1, 17. Dieu nous donne de bonnes choses et pour l'instant, on ne peut pas se poser les grandes questions. Il faut lui faire confiance. Alors c'est vrai qu'il parle encore de l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Il fait le contraste entre la vie qui exclut Dieu et puis la vie qui va nous présenter par la suite, qui nous rappelle l'existence de Dieu. Est-ce que vous avez encore des questions? Soyez sages, essayez de plaire à Dieu, parce que finalement, c'est le juste qui va être récompensé, c'est le juste qui va recevoir le bonheur, la félicité éternelle. Je reconnais tout de même que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. C'est toujours la bonne solution, même si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes persécuté, si vous cherchez à plaire à Dieu de tout votre cœur, vous avez cette richesse intérieure que nul ne peut vous prendre. Amen.